cours de philosophie éthique par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeudard le 11 janvier 96.
Je vais, dans ce premier cours de ce nouveau trimestre, reprendre rapidement ce qu'on a vu. Il faut dérouiller, parce que tout de suite, dès qu'il y a un moment où il n'y a plus de cours, on est moins habile. Le problème de l'éthique, c'est très important. C'est l'aspect pratique de la philosophie. La philosophie est plus pratique que les sciences modernes. Il faut arriver à comprendre ça. Ça, c'est capital. Autrement, on est positiviste. Le fond positiviste de nous se réfugie dans la psychologie. C'est très net, ça. Je crois qu'il faut le sentir, ça. Le positivisme consiste à dire que les sciences sont plus pratiques que la philosophie. Que les sciences sont plus vraies que la philosophie. Alors, la philosophie est sagesse. Saint Thomas le dit avec force. Heureusement qu'il l'a dit. L'Église considère que Thomas d'Aquin est quand même le théologien à la suite de Jean. Mais pour saint Jean, c'est l'aspect mystique qui est évidemment l'aspect le plus pratique. Bien sûr, rien n'est plus pratique que l'amour de Dieu, nous le verrons tout à l'heure. Et il n'y a que ça qui est pratique. Tout le reste est déjà un tout petit peu moins pratique. C'est pas étonnant, puisque par l'amour divin, on vit de l'éternité. Et l'éternité assume tous les instants. Donc, il n'y a rien de plus pratique. On est pleinement en acte dans l'instant présent. Je suis. Je suis cherchant la vérité. C'est ça l'attitude que vous devez avoir au point de départ de tous les cours. Cherchons la vérité. Cette vérité, je l'ai dans la foi. Mais la foi exige que tout ce que mon intelligence peut atteindre, elle doit l'atteindre. Tous les préambules à Fidei. Et ceci, c'est le grand enseignement de l'Église. Depuis le début, avec même les pères de l'Église. Et Thomas n'avait que mettre en ordre et préciser ce que les pères de l'Église disaient. Et ceux qui ont voulu prendre les pères de l'Église dans un autre sens que Thomas d'Aquin, je crois, ne suivent pas la tradition. C'est quelque chose d'important pour nous de comprendre ça. Saisir cela. C'est pas toujours commode. Alors, ce qui est important ici, c'est de comprendre que cette philosophie pratique, de fait, implique pour nous, aujourd'hui, ce qu'Aristote n'avait pas à faire. Mais nous, nous devons le faire. C'est du côté de l'éthique que la révélation intervient le plus. C'est normal. La révélation ne nous dit rien sur l'être, bien que Dieu dit « je suis ». Alors quand Dieu dit « je suis », est-ce que Dieu a transformé l'être? Est-ce que l'être de la révélation est changé? Parce que Dieu a dit « je suis ». Le « je suis » de Dieu qui m'est transmis par la révélation. Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. exige de comprendre quelque chose de nouveau dans le « je suis ». Je suis celui qui est. Donc, la manière d'être, mais pas l'être. Et du côté pratique, la révélation nous donne une nouvelle finalité. Et la finalité, cause des causes, commande tout le point de vue pratique. Et donc, tout le point de vue pratique est modifié, changé par la révélation. C'est sûr. Et cependant, la révélation ne supprime pas la nature humaine. Et donc, il y a encore une vérité pratique qui demeure. Mais cette vérité pratique, je ne dois pas la séparer de la vérité chrétienne. Je la distingue. Une fois que j'ai compris cela, puisque nous faisons ici une philosophie pour ceux qui sont chrétiens. Quand on fait une philosophie en Sorbonne, on doit nécessairement partir de l'expérience commune de tous les hommes. Et je respecte ça. Pour nous, surtout en philosophie pratique, nous devons partir de notre expérience de vie. Puisque c'est pratique. Et nous savons que notre expérience de vie est une expérience chrétienne. Monastique, donc super chrétienne. Éminemment chrétienne. Mais chrétienne. Si elle est chrétienne, elle est humaine. Et donc, je sais que je puis découvrir une éthique fondamentalement humaine. Autrement, je devrais dire, la grâce supprime la nature. Or, toute la grande tradition chrétienne des pères de l'Église et des théologiens et l'enseignement actuel de l'Église, c'est que la grâce ne supprime pas la nature. Elle me donne une nouvelle finalité, mais ne supprime pas la nature. Et donc, la foi ne supprime pas la philosophie. Prétendre que la foi supprime la philosophie, c'est contraire à l'enseignement actuel de l'Église. Vatican I, qui condamne le fidéisme. Le fidéisme, c'est considérer que la foi supprime la nature et que la foi supprime la recherche intellectuelle. La foi ne nous rend pas paresseux. Au contraire. Plus l'Esprit Saint nous mène, je dis bien plus l'Esprit Saint nous mène, plus nous sommes attentifs à la recherche de la vérité. Mais plus l'imaginaire nous mène, plus nous sommes paresseux. Alors faites attention à la paresse. C'est le signe que l'imaginaire gagne du terrain. Et quand, au contraire, augmente en vous le souci de vérité, ça prouve que la grâce gagne du terrain. C'est un petit signe, très facile à saisir, ça. Alors, évidemment, entre deux, il y a la fatigue. La fatigue est neutre, elle n'est ni chrétienne, ni naturelle. Elle est infranaturelle, donc elle ne peut pas être chrétienne. Parce que ne peut être chrétien que ce qui est naturel. La fatigue, c'est un frein naturel, c'est évident, c'est un frein humain. On est fatigué parce qu'on est fatigué. Il n'y a pas de finalité dans la fatigue. Il y a un conditionnement terrible. Le conditionnement très lourd du corps. est fatigué. Cherchez pas de finalité dans la fatigue. Donc cherchez pas d'excuse. C'est l'excuse, c'est une fausse finalité. Je suis fatigué, mais oui, je suis fatigué. Alors on peut chercher les causes, les motifs. Alors, comprenons bien, et ça il faut jamais l'oublier, qu'étant chrétien, étant religieux, étant moine, notre expérience première est toujours chrétienne. C'est sûr. Il ne faut pas que le cours d'éthique vous détourne de votre finalité. Ce serait catastrophique. Ce serait anti-chrétien. Le cours d'éthique, de philosophie éthique, existe pour des chrétiens, pour des moines. Parce que c'est la lumière de l'intelligence sur la complexité de notre vie humaine. Et que la complexité de notre vie humaine n'est vue parfaitement qu'au niveau éthique. C'est ça qu'il faut comprendre. Que la psychologie peut jouer un rôle lorsque, de fait, il y a un signal d'alarme qu'on est incapable, pour telle ou telle raison, de poser un acte de volonté. Un aboulique. Vous voyez, quelqu'un qui est aboulique, complètement, complètement aboulique. Tous les matins, il se lève à 10h du matin. On a beau mettre tous les réveils possibles, il les revoit promener. Tous les matins, il se réveille à 10h du matin. Alors, les gens qui sont mariés, l'épouse vient dire, mon père, je ne sais pas ce qu'il a, et il ne se lève qu'à 10h du matin. Alors on cherche des moyens, parce que vous comprenez que c'est pas ça qui permet d'être considéré comme un homme. Toujours en retard. Aboulique, dans la vie religieuse, ça peut exister aussi. Mais ça se détecte très vite, les aboliques. Alors, on leur dit, mais écoutez, c'est peut-être pas ça pour vous. Parce que course à obstacles. Si dès le premier obstacle, on s'arrête. Le premier obstacle, c'est lever du matin. Premier obstacle. On doit comprendre que ce qui est aboulique n'est pas humain. Et donc ne peut pas être chrétien. Alors à ce moment-là, on peut avoir besoin de saisir d'où ça vient. On peut. Et c'est toujours très difficile, parce que le mal n'a pas de cause propre. Et ça provient d'une série de choses secondes qui font que, de fait, on est aboulique. Vous voyez, je n'étudie pas dans ma philosophie qu'est-ce que c'est d'être aboulique. Je situe. Mais chacun en est aboulique pour un petit coin de son être, de sa vie. Aboulique pour le lever, ça se voit. Aboulique pour le coucher, ça se voit. Aboulique pour la nourriture, ça se voit. J'ai pas le courage de manger. Je ne mange que quand j'ai faim et surtout quand c'est bon. Tandis que tout le reste, non, ça m'intéresse pas. C'est une drôle de figure, et puis on reste là. Alors on joue au spirituel, parce que je ne mange pas. Non, le spirituel mange parce qu'il est réaliste. Il mange pour vivre, pour pouvoir faire ce qu'il doit faire. Alors comprenons bien que tout ce qui est chrétien est humain. Et donc, je peux l'étudier au plan philosophique. J'ai donc, première recherche, qu'est-ce qu'il y a d'humain en moi et de fondamental. Fellini, les théologiens du Moyen-Âge comprenaient ça très bien. Il y a tous les gestes instinctifs. Le fricare barbam. Inutile de traduire. Il vaut mieux pas. Le fricare barbam. Instinctif. Il y a des gestes instinctifs dans notre vie. Ils ne sont pas humains. Donc, le philosophe les met à la poubelle. Vous voyez ce que je veux dire, hein ? Il étudie ce qui est humain. Ça ne veut pas dire que ça n'intéresse pas. Ça l'intéresse. Mais ce n'est pas sûr. Les gestes inconscients, instinctifs, qu'il fonde sa philosophie. Ça, c'est très important de comprendre ça. Parce que s'il fondait sa philosophie sur les gestes inconscients, il ne connaîtrait pas ce que c'est que l'homme. Je peux essayer de récupérer l'inconscient. Je sais. La psychanalyse récupère l'inconscient. Du moins, elle essaie. Je ne sais pas comment on le récupère. Ce serait une question très intéressante à se poser. Comment récupérer l'inconscient après avoir fait une philosophie du conscient? Après avoir fait une philosophie de l'acte humain, est-ce que je peux récupérer l'inconscient? Dans ma vie, il y a toute une partie d'inconscient. C'est bien évident. Quand j'étais jeune, quand j'étais dans le berceau, j'ai vécu largement de l'inconscient. Vous vous rappelez, vous dormiez tout le temps. Et quand vous ne dormiez pas, vous criez. Inconsciemment. Pas par méchanceté, mais inconsciemment. C'était dormir ou manger. Et si, entre deux, le cri, il y avait beaucoup d'inconscient. Alors, peut-on récupérer l'inconscient? Ça fait partie de ces grandes questions qu'il faut se poser. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne peux pas fonder ma philosophie sur l'inconscient. La philosophie éthique. Je ne peux fonder ma philosophie éthique que sur les actes responsables. Or, parmi mes actes responsables, quel est le plus responsable? Le philosophe a le droit de choisir l'expérience type qui l'aidera à aller plus loin. Et je crois que je dois partir de ce qui, dans ma vie, est volontaire et responsable. Tout ce qui n'est pas volontaire, qui n'est pas responsable, je le mets à l'écart. J'y reviendrai. J'essaierai d'expliquer ça. Comment vient cet involontaire? Comment vient tout ce qui n'est pas volontaire, qui est involontaire? Tout ce qui est en dehors du responsable. Mais je ne peux pas fonder ma philosophie là-dessus. Parce que c'est pas humain. Alors je cherche à comprendre ce que c'est que l'homme. Donc ce qui est humain dans ses activités. Alors, il y a toute une série d'activités où je suis responsable. Mes actes d'obéissance, les vrais actes d'obéissance, je suis responsable. Ne dites jamais, j'obéis, donc je ne suis pas responsable. Pour certaines personnes, l'obéissance est considérée comme des actes qui ne sont pas responsables, ce qui est faux. Puisque l'obéissance implique une coopération avec quelqu'un. Donc je suis responsable. Et donc je pourrais dire, partons de l'éthique, partons de la recherche de l'obéissance. Je pourrais dire, dans ma vie, je suis responsable de mon travail. C'est très vrai. Je suis responsable de la recherche philosophique, de la recherche de la vérité. essayez d'abord de voir tous les actes responsables. Et parmi ces actes responsables, il y en a un qui me semble être le plus responsable de tous. C'est lorsque je suis responsable d'une personne humaine dans l'ordre de l'amour d'amitié. L'amour d'amitié me met en présence de l'acte où je suis le plus responsable. Parce que dans l'amour d'amitié, on se donne l'un à l'autre la responsabilité sur sa propre vie. Tu es mon ami, donc tu es responsable de moi. Mais c'est pas la responsabilité que vous avez vis-à-vis de des biens temporels qui vous permettrait de fonder une philosophie éthique. La responsabilité à l'égard de l'amour d'amitié, à l'égard de l'ami. C'est pour cela qu'il me semble que l'expérience de l'amour d'amitié avec la responsabilité de l'autre me semble être l'expérience fondamentale qui permet de détecter, d'analyser ce qu'est l'acte humain. L'acte humain n'est parfaitement acte humain que dans le choix de l'ami. Et donc c'est l'expérience type qui me permet de découvrir ce qu'il y a de fondamental dans l'éthique. Mais l'acte humain peut prendre une nouvelle dimension si la personne humaine a découvert l'existence d'un être premier qui est créateur. Et si on a découvert l'existence d'un créateur, on doit se poser la question, quelle est ma responsabilité à l'égard de cet acte créateur ? Puisqu'il m'est donné gratuitement, puisque je n'ai pas voulu la création de mon âme. Alors est-ce que la découverte de l'existence de l'être premier et du créateur me met dans l'irresponsabilité de toutes mes activités ? C'est une position qui se soutient de temps en temps. Je ne suis pas responsable d'être créé. On ne m'a rien demandé. Et là, nous sommes tous dans la même condition. Personne d'entre vous n'oserait dire « Moi, Dieu m'a demandé. » Si j'acceptais d'apparaître dans le monde, c'est d'accepter cette gratuité de l'amour. religieuse repose sur cette acceptation de la gratuité de l'amour. Si je suis intelligent, je dois accepter la gratuité de l'amour. Et je l'accepte parce que je sais que l'amour, c'est ce qu'il y a de plus fondamental dans ma vie. L'amour d'amitié m'a donné le sens de l'amour et m'a fait comprendre que moi-même, j'aime gratuitement mon ami. Si j'aime mon ami de façon utilitaire, mon amour d'amitié est diminué. Si j'aime mon ami pour tout simplement le plaisir, mon amour d'amitié est diminué. Et mon amour d'amitié n'est parfaitement lui-même que quand j'aime dans la gratuité. C'est donc l'amour d'amitié qui me permet de découvrir comment Dieu me crée par pur amour, dans la pure gratuité. Et que j'accepte cette gratuité, c'est le lien que j'ai. Le lien premier que j'ai avec lui, et que cette gratuité que j'accepte, c'est accepter cet amour divin qui m'enveloppe, qui me porte. Vous voyez comme c'est important de voir que l'amour d'amitié me donne l'expérience de la gratuité et de la responsabilité. Je n'ai pas d'expérience de la responsabilité si je n'ai pas d'expérience de la gratuité. Et la gratuité est première par rapport à la responsabilité. Ça va très loin, ça. Donc il n'y a pas de responsabilité sans gratuité. Parce que l'amour réclame d'être gratuite. Et l'amour est seul fondement de la responsabilité. Donc c'est par l'amour que je passe de la gratuité à la responsabilité. Et je vois à ce moment-là que toute l'éthique, toute la recherche de l'acte humain et la vérité de l'acte humain prend une nouvelle dimension par le point de vue religieux dans l'adoration. C'est par l'adoration que l'homme grandit jusqu'à Dieu. Dieu devient, comme on dit aujourd'hui, sa référence, c'est-à-dire sa finalité. Il vient de Dieu et il peut retourner vers Dieu. Il peut retourner vers Dieu en l'adorant, en reconnaissant que Dieu est premier, en reconnaissant que Dieu est tout pour lui, et que ce qu'il y a de plus grand pour lui, c'est de se soumettre à lui. Il y a là quelque chose, je crois, de capital à comprendre pour saisir cette nouvelle dimension de l'éthique. L'éthique humaine n'est parfaitement humaine que si elle atteint cette gratuité de l'amour de Dieu, du Créateur sur moi. Et si face à cette gratuité, je réponds en adorant. L'adoration est la réponse de l'homme, de la créature, à la gratuité du Créateur. Et je coopère alors à ce moment-là, à ma manière. Je coopère à ma manière, à cette gratuité. Et là, ça me fait saisir comment toute l'éthique religieuse est commandée par la gratuité. Et comme on est loin du point de vue d'une justice, puisque si c'est la gratuité, c'est vraiment l'amour qui est premier. Troisième niveau, c'est que je suis chrétien. Je vis au milieu de chrétiens. Ma culture humaine est tout imprégnée de christianisme. le métaxu. De passer de l'éthique religieuse à l'éthique chrétienne, c'est bien la gratuité. C'est ça qui est très, très extraordinaire, vous voyez. Je crois que c'est très important de saisir ces métaxus. Je pars de la responsabilité pour découvrir la gratuité. Et de la gratuité, je découvre l'adoration. Et je découvre la gratuité substantielle de la vie chrétienne. Je me pose la question. En tant que philosophe, en tant qu'homme tout court, si vraiment il y a eu un homme qui s'est dit envoyé du Père et fils de Dieu, et qui s'est présenté à nous comme le sauveur des hommes, celui qui permet à l'homme d'être bien heureux. Serait, au point de vue de ma responsabilité, vraiment le dernier des imbéciles à dire je ne veux pas savoir si c'est vrai. Ce serait une inconscience totale qui ne peut reposer que sur un a priori. C'est-à-dire, je n'ai pas critiqué les idéologies athées. Je n'ai pas critiqué Feuerbach. Et j'ai accepté ça. En disant, inutile de regarder dans l'histoire la physionomie de cet homme, ce qu'il est. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut dépasser l'apologétique par la philosophie. Et il faut montrer que regarder l'existence de cet homme qui s'appelle Jésus et qui dit qu'il est l'envoyé du Père, qu'il est le Fils de Dieu et qui vient nous sauver, il faut regarder attentivement qui il est, ce qu'il est pour moi, comment s'impose-t-il à moi. Comment s'impose-t-il aux hommes? Et là, il y a un problème extrêmement important au point de vue pratique. Il est évident que ma vie humaine change du tout au tout. Si Jésus existe, que je le reconnais et que je le choisis pour être mon ami, que si, au contraire, je dis Jésus n'existe pas, c'est une imposture de dire qu'il a existé, que Dieu a envoyé son fils, c'est faux, c'est une erreur. Alors, la vie humaine consiste à se débrouiller soi-même pour aller vers ce qu'il y a de plus parfait pour les autres hommes. Ça change du tout. Tout ma finalité. Et Auguste Comte a très bien compris ça. Ce n'est plus la recherche de la finalité, c'est la recherche du comment. Comment tu vas te débrouiller? La finalité ne nous donne pas la possibilité de se débrouiller. C'est d'un autre ordre. La finalité donne un sens à notre vie. La finalité pénètre au plus intime de notre intelligence pour nous orienter vers quelqu'un qui pour nous est sauveur d'une manière efficace puisqu'il est Dieu. Et alors, se pose à ce moment-là, et nous l'avions touché, et c'est bon. l'instant se pose à ce moment-là, est-ce que cette recherche est encore philosophique? Ou est-ce qu'elle n'est pas philosophique? Et je dis, il y a une recherche philosophique. Pourquoi? Parce que cette finalité dont me parle Jésus, cette nouvelle finalité pour l'homme dont me parle Jésus, ne supprime pas l'humain. Si cette finalité nouvelle supprimait l'humain en faisant de moi un surhomme qui n'aime plus les autres hommes et qui les rejette, cette finalité ne serait plus philosophique. Elle ne serait plus humaine. Tandis que si cette finalité demeure humaine, et surhumaine, mais elle demeure humaine, le philosophe doit, c'est un devoir, regarder en quoi consiste cette finalité, ce qu'elle est, et comment il peut en vivre. Et non seulement en vivre lui, mais permettre aux autres d'en vivre. Vous voyez, il y a là, pour nous, un point très très important au point de vue pratique. Parce que ça relie la recherche philosophique à ma vie chrétienne. Le pont ne se fait pas au niveau métaphysique, mais le pont se fait du côté pratique. Donc, du côté de l'amour, du côté de la finalité. Et c'est là où je comprends que la finalité est cause des causes, parce qu'elle me permet, même si, de fait, je n'y adhère pas de tout mon cœur, elle permet cependant un regard intelligent sur cette nouvelle finalité. C'est par le point de vue pratique de cette nouvelle finalité que mon intelligence peut proclamer la grandeur d'une éthique chrétienne. Et en proclamant la grandeur d'une éthique chrétienne, elle montre que cette éthique chrétienne ne peut pas être étrangère à moi si elle existe. Et si je veux être lucide jusqu'au bout, c'est-à-dire être responsable de ma vie jusqu'au bout, je retrouve le problème de la responsabilité. Ai-je le droit, autrement dit, ai-je le droit, la capacité de faire de ma vie ce que je veux? Je suis né sans qu'on m'ait demandé mon avis. Puis-je dire, puisqu'on ne m'a pas demandé mon avis, j'ai le droit de m'orienter comme je veux. Ce petit sophisme qui est très très enraciné en nous. C'est la mauvaise humeur, ça. Éthique. Qui est toujours là. Toujours là, présente. Après tout. Si j'avais été conscient et volontairement accepter la création de mon âme, je serai responsable de son développement. Mais comme je n'ai pas accepté volontairement et librement, je peux mener ma vie comme j'entends. Alors, à ce moment-là, vous voyez, il faut tout de suite revenir sur l'éthique fondamentale. Êtes-vous responsable de vos actes ? l'ami. Et on remonte. Et c'est la ligne de la responsabilité qui me permet de répondre à ça. Si évidemment je nie la responsabilité, je dis je ne suis pas responsable. Je suis bâti comme ça, j'ai des ancêtres comme ça, eh bien, j'agis par instinct. Donc à ce moment-là, vous n'acceptez plus votre dignité d'homme et la dignité de la personne humaine. Vous reconnaissez uniquement qu'il y a en vous une force instinctive qui domine. La moira, le destin, je suis né comme ça. Alors à ce moment-là, il n'y a plus d'éthique possible. Il n'y a plus de responsabilité possible. Alors, on se met soi-même en dehors de la communauté humaine. C'est une des tentations, du reste. En voyant que la communauté humaine repose sur une morale. Il y a un minimum d'éthique dans toute communauté humaine. Alors, si on ne veut pas ce point de vue éthique de responsabilité, on se met en dehors de la communauté humaine. Mais il faut voir que le champ de la responsabilité dépasse celui de l'efficacité. Ma responsabilité va plus loin que ma responsabilité. Ma responsabilité va plus loin que mon efficacité. Je ne suis pas efficace vis-à-vis de ma naissance. J'en suis pour rien. Mais je peux être responsable de ma finalité, de ce que je dois faire de ma vie. C'est curieux, ça. Alors, pourquoi cette responsabilité va plus loin que l'efficacité? À cause du primat du bien, de la finalité sur la cause efficiente. Ça, je peux le comprendre. Puisque je peux, en aimant, aller plus loin qu'en réalisant quelque chose. Et que la réalisation de quelque chose dépend